Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC, sur la chaîne YouTube After-Foot. L'After est là, premier podcast de France, espace de liberté de tous les supporters. Au 32-16, n'oubliez pas qu'après l'After, il y aura la libre antenne de l'After jusqu'à 1h30 du matin avec Oussem Moussaïef, Julien Cazard et Walid Acherchour ce soir. Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Kevin Diaz est là, salut Kevin.
Salut à tous.
Kevin, l'homme du samedi soir.
Et
voilà,
ouais.
Le samedi soir, c'est sa case.
Jordan Night Fever.
Ouais. Voilà.
Friday, Saturday.
Qualification de la Suisse, qualification de l'Allemagne. 2-0 les scores du jour. 2-0 pour les Suisses face aux Italiens. 2-0 pour les Allemands face aux Danois. Donc la Suisse qui a comme perspective d'affronter, pourquoi pas, l'Angleterre. Le match des Anglais, c'est demain face à la Slovaquie. Et l'Allemagne qui affrontera le vainqueur du match Espagne-Géorgie. On va analyser tout ça avec les drôles de la
Polo, il va placer trois équipes en quart.
Et il est là, Polo, il est là.
Son pays plus les deux dépendances.
Attends, l'Autriche n'est pas qualifiée.
Oui, mais j'ai le droit d'envisager.
Tu peux
l'envisager. L'Autriche, donc ça va faire ses trois pays à lui.
L'Autriche,
c'est son football qui domine.
L'Autriche, c'est pas une petite dépendance de l'Italie aussi ? C'est pas très loin, non ?
On va dire qu'historiquement, c'est plus une dépendance pour l'Allemagne quand même.
Oui, en effet.
Selon Giroud.
Nous, c'était pas vraiment dans ce sens-là. C'est plutôt eux qui ont essayé de venir mettre les chaussons chez nous. Ça veut pas la même chose.
Alors, bien sûr, jusqu'à minuit 30, on est là. Je vous rappelle qu'on est à 49 jours de la reprise de la Ligue 1. Toujours la faillite est là. Hein. Toujours pas de contrat de droit de télé, on attend. On ne voit rien venir. Avant d'accueillir Polo Breitner, j'aimerais faire une petite incursion dans le domaine de l'arbitrage.
Ah oui ?
Oui, Stéphane Lannoy est là, notre
pourquoi
arbitre. Parce que...
Alors, est-ce que historiquement, il va répondre, mais comme ça lui permet de m'entendre. Mm-hmm. Est-ce qu'historiquement, Stéphane Lannoy n'était pas contre la VAR, puis était devenu pour la VAR ? Et on ne sait plus trop où il en est aujourd'hui, bah, et nous non plus d'ailleurs.
Enfin,
nous, on sait où on en est, puisqu'on n'a jamais changé d'avis.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Salut Stéphane.
Bonsoir Daniel. Bonsoir Kevin.
Salut Stéphane.
En effet, Daniel, tu avais bien suivi mes différentes évolutions au regard de l'assistance vidéo. Au départ, j'y étais. Au tout début de sa mise en place, j'y étais farouchement opposé. Pour une bonne et simple raison. C'est que je craignais que, en mettant le doigt dans l'assistance vidéo, on aille beaucoup trop loin et qu'à un moment donné, on ne se satisfasse pas seulement de revenir sur des décisions de pénalty, de carton rouge, de but ou d'erreur d'identité, mais qu'on aille beaucoup plus loin au risque de déresponsabiliser de plus en plus les arbitres. Et puis, avec l'évolution des choses, je me suis rendu compte que finalement, l'assistance vidéo restait dans un cadre qui était quand même bien réglementé et que ça permettait quand même de corriger pas mal d'erreurs manifestes finalement. Donc, vous voyez par exemple ce soir, sans l'utilisation de la VAR, le premier but du Danemark aurait été validé. Le pénalty pour la faute de main n'aurait pas été sifflé, donc
oui.
Voilà. Donc,
oui, mais Stéphane, il y a problème.
Oui, mais le problème, c'est... Ouais.
On n'en peut plus de ces hors-jeux-là. Lukaku, l'autre jour, 1 cm de pied, si, en gros, si Lukaku fait du 39 et pas du 47, il n'y a pas hors-jeu. Pareil, ouais. Ce soir pour le Danois. Mmh. On ne voit jamais le départ du ballon. Pardon, la technologie est remise en question.
Le péno, pour un pouce.
Le péno, maintenant, ouais. Il suffit de tirer dans les bras en fait, du mec d'en face, il y a péno.
Non, mais Stéphane...
En fait, alors, moi, je comprends que l'application stricte...
Après, okay, si Stéphane nous dit que ce soir, tout a été bien fait,
mais l'esprit du jeu, c'est une catastrophe, on n'en peut plus.
Et puis Stéphane, vous qui suivez quand même, je pense, tous les championnats, notamment en France, oui. Moi je suis quand même désolé, mais à partir du moment où vous considérez ce soir que les règles, en tout cas mises en place par l'IFAB ou par l'UEFA pour ce tournoi, sont respectées. Mais moi, c'est pas mon football en fait ce soir. Je suis désolé, Stéphane. Pour moi, le hors-jeu, la règle du hors-jeu initial. Vous m'arrêtez si je me trompe. La règle du hors-jeu, c'est si un attaquant est sur la même ligne que le dernier défenseur, il est dans ce cas-là en jeu pour aller marquer un but. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ligne à l'œil nu d'un arbitre assistant ou d'un arbitre de ligne, je ne sais pas comment on l'appelle. On parle d'une pointe de chaussure. Si le mec fait du 47, il est hors jeu. Si le mec fait du 42, il n'est pas hors jeu. Pas ça la règle initiale. Pareil pour la règle des mains, et après je vous laisse répondre. La règle des mains, c'est une main qui doit être volontaire. À la base, c'est une main qui doit être volontaire. Si vous considérez que dans mon football, ou dans le football qu'on a aimé, cette main doit être sifflée parce que c'est une main volontaire. Non, mais parce qu'il a.
C'est pas lui qui arbitre ce soir.
Je sais bien, mais Stéphane dit que pour lui, il y a eu des erreurs qui ont été. Il y a eu des erreurs qui ont été. Des erreurs manifestes qui ont été, remis en cause ou mises en lumière. Mais je suis complètement. Vous avez complètement tort. Pour mon foot, vous avez complètement tort. Donc je sais pas.
Non, mais je comprends. Je comprends, Kevin, votre position qui est du reste, je pense, la même pour Daniel. Et pour Gilbert, parce que vous êtes des passionnés de football, et on est tous des passionnés de football avant tout. Même les arbitres sont passionnés de football, et évidemment de se dire de refuser un but pour 1 centimètre ou 2 centimètres, c'est complètement stupide. On laisse plus la possibilité aux attaquants de s'exprimer. Dans le doute, on laisse plus la possibilité de faire vivre le spectacle, d'être générateur de buts marqués, de favoriser le jeu. Et aujourd'hui, on en arrive à refuser des buts pour 1 centimètre. Maintenant, c'est la règle. Plus personne ne peut venir aujourd'hui contester l'outil qui est extrêmement pointu.
Non, Stéphane, moi je le conteste. Parce que à quel moment décide-t-on du hors-jeu quand le ballon quitte le pied? Est-ce que on a la technologie avec mais puce dans le ballon et tout, mais oui. C'est au moment où le ballon quitte le pied pour la dernière passe. On ne voit jamais cette image.
Non, pas du tout. Et c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, autant par le passé, on pouvait discuter du départ du ballon, quelle image est utilisée, à quel moment, est-ce que c'est cette image-ci, celle juste avant, celle juste après. Et donc, évidemment, quand on utilise une image et quand il y en a 300 par seconde, laquelle utilise-t-on vraiment pour définir le point de départ du ballon? Tout ça était très aléatoire au départ, et ça pouvait générer des différences. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, et ça me permet de rappeler la règle aux auditeurs d'RMC, c'est qu'il y a 12 caméras sous les toits du stade qui sont utilisées uniquement pour le hors-jeu. Vous avez un capteur au centre du ballon et qui, lui, envoie des données, 300 données par seconde, systématiquement, en temps réel, tout le temps. Dès lors que le joueur touche le ballon, c'est pas au moment où il quitte le pied, c'est au moment où il touche le ballon, le capteur envoie donc au centre de visionnage les images précises du point de contact. Et à partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle entre en ligne de compte, analyse les données du capteur du ballon, les 12 caméras qui reprennent 29 points corporel sur chacun des joueurs, avec toutes les extrémités. Je rappelle que dans la règle du hors-jeu, les mains, les bras ne comptent pas, mais toutes les autres extrémités, bout du pied, genou, la tête, tout ce que vous voulez, 29 points corporels. Toutes ces données sont digérées par l'intelligence artificielle, qui finit par vous renvoyer derrière une incrustation image en 3D pour vous dire, bah oui, l'attaquant, je suis désolé, mais l'attaquant est hors jeu de 2 cm d'un bout de chaussure. Voilà, c'est la règle.
Que de moyens déployés, que de technologies.
Bah oui. Ah, bah beaucoup. Ah oui, énormément, Daniel. Énormément.
Il faut qu'on arrête.
Et je finirai par dire, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des différents championnats qu'on pouvait suivre. Bah, moi, l'année dernière, je préférais voir un match de Ligue 2 qu'un match de Ligue 1, parce qu'en Ligue 2, il n'y a pas le VAR. Et l'année prochaine, je préférais voir un match de National qu'un match de Ligue 2, et on redescendra aussi bas, et vous verrez qu'on en reviendra à ça, et que le désamour des gens pour ce sport, outre pas mal de choses que ce business est en train d'englober, j'ai envie de dire, ou de tuer, et bah, la VAR en fait également partie.
Oui, et malheureusement, la suite logique, c'est qu'il n'y aura bientôt plus d'arbitres. L'intelligence artificielle fera tout. Merci Stéphane!
Mais je vous en prie.
À très bientôt. On va reparler de tous ces sujets passionnants. Stéphane Lannoy avec nous.
Moi, la vérité, je trouve que tout ça ne sert plus à rien.
Quoi, d'en parler?
Oui, parce que ça a animé nos discussions, nos débats pendant des années quand on a combattu cette idée, qu'on sentait que ça allait arriver. Je pense qu'on a été extrêmement précurseurs dans ce domaine et dans les débats qu'on a mis en avant, surtout qu'on était, il y avait que nous qui étions contre la VAR. Tout le monde pensait que c'était le progressisme des choses, la normalité qui allait arriver. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sceptiques, beaucoup ont fait marche arrière. Mais au fond, je suis un peu désabusé parce que pendant un moment, j'étais très fier de ça. On était les seuls, on faisait des grands débats là-dessus. Mais en fait, non seulement il n'y a pas de retour en arrière possible, mais on va pousser encore plus loin la technologie, puisqu'il va falloir tester et utiliser tous les outils. Intelligence artificielle, il y a un an, il n'y avait pas. Maintenant, c'est capteur dans ballon. T'as vu, pour le pouce, c'est limite le cœur qui bat. Donc,
les arbitres, en autorisant ça, en fait, ont signé leur arrêt de mort. Voilà. Oui. Bientôt, il n'y aura plus d'arbitres, en fait.
Ça ne sert même plus à rien qu'on en parle.
Parce que, par exemple, il n'y avait jamais pénalty sur le match entre le Portugal et la Géorgie où le défenseur de Benfica la touche le joueur alors que le joueur amplifie largement son contact.
Bien sûr qu'il y a péno.
Jamais de la vie. Tu vois, c'est pas manifeste. Donc si c'est pas manifeste, il faut pas revenir. Tu vois ce que je veux dire? La règle, c'est ça.
On a un raccourci à cause de l'orage tout à l'heure, là. Donc on va retrouver Paulo Brancard dans quelques instants, analyser
justement
le match de l'Allemagne.
Tous les contacts ne sont pas une faute, Daniel.
Et ensuite, le match de l'Italie. Et de la Suisse.
Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Si tu exagères, ça veut dire que c'est pas vrai.
Et bien sûr que si.
Ah non.
À tout de suite dans la
fin. Non, pas du tout.